Proposons, dans cette série d'entretiens, de tracer le portrait spirituel de quelques figures marquantes du protestantisme. Pasteur Domas, pourquoi avoir choisi en premier lieu Calvin ?
Calvin est le génie français de la deuxième génération de la réforme protestante du XVIe siècle. Il est une figure de l'Église, un être d'exception au destin fascinant. Cependant, il y a un mythe alentour de Calvin. L'inconscient collectif intercale sans cesse un certain nombre de filtres au travers desquels apparaît l'image simplifiée d'un grand fantôme noir bilieux à la barbe qui ondule en perpétuelle robe de chambre. Et les quelques lignes que lui consacrent les livres d'histoire font de lui le tyran de Genève, à l'âme atroce, le censeur intolérant des plaisirs de la vie. Et peut-être nous pourrions, au travers de cette série d'émissions, découvrir l'humanité de Calvin, cet homme fait de sensibilité, de réserve, un timide, un homme plein de pudeur, un homme malade, emporté, mais hissé par la grâce de Dieu à cette vie de foi qui marque d'un sceau indélébile sa brève existence.
Nous pourrions commencer à parler des enfances de Calvin.
Calvin a vu le jour dans la petite cité picarde de Noyon le 10 juillet 1509. Une cité épiscopale à quelques 100 kilomètres au nord-nord-est de Paris. Son père, Gérard Cauvin, était d'origine modeste. C'est un fils de batelier, un tonnelier marinier sur l'Oise, devenu greffier municipal, puis homme d'affaires de l'évêque et du clergé local. Vous le remarquez, un poste de haut fonctionnaire. Et le père de Calvin est admis à la bourgeoisie. Sa mère, Jeanne Lefranc, est la fille d'un hôtelier, la fille d'un bourgeois, membre du conseil de la ville de Noyon. C'est une femme pieuse, réputée pour sa beauté, attachée aux dévotions du temps, attachée aux dévotions de ce milieu typiquement catholique. Jeanne associa son fils à ses dévotions, le conduisant aux offices, aux solennités et aux processions. Et entre autres, dit Calvin, il me souvient que j'ai baisé une partie du corps de Sainte-Anne en l'abbaye d'Ourscamp, près de Noyon. Et Calvin de raconter, par exemple, comment un autre jour, il vit, je le cite, de pauvres femmes allumer des chandelles devant les statues des bourreaux de Saint-Étienne qu'elle confondait avec celles des premiers martyrs chrétiens. Cette mère de Jean mourut sans doute très jeune alors que Calvin avait 5 ou 6 ans. Outre Jean, les enfants de Gérard Cauvin et de Jeanne Lefranc sont Charles, le fils aîné, et puis après Jean, Antoine et François qui mourra jeune.
Dès que j'étais jeune enfant, mon père m'avait destiné à la thèse. Quel a été le cycle des études de Calvin ?
Élevé à l'ombre de la cathédrale de Noyon, bénéficiant de la protection de l'évêque, les fils Cauvin, que leur père destinait à des carrières ecclésiastiques, obtinrent des chapelles-nids dont les revenus devaient leur permettre de poursuivre leurs études. Ainsi, à l'âge de 12 ans, Jean reçut sans doute la tonsure. D'abord, il fit ses études élémentaires au collège des Capettes à Noyon avec son frère aîné Charles. En 1523, il continue ses études à Paris avec trois jeunes gens de la noble famille de Hengest, dont plusieurs membres furent évêques de Noyon. À Paris, Calvin s'inscrivit au collège de la Marche, où il eut comme régent de grammaire Mathurin Cordier, un humaniste libéral qui devait être un des fondateurs de la pédagogie protestante. Calvin entre bientôt au collège Montaigu, connu pour sa discipline, voisinant avec la Cèze. Le collège de Montaigu, en effet, résonne des colibés que lui adressent les partisans de l'esprit nouveau, que l'on pense au sarcasme d'un Rabelais, par exemple. Ignace de Loyola fut également élève à Montaigu. Temple de l'antinature, cette forteresse de l'orthodoxie scolastique accueille le jeune Picard pour 4 ou 5 ans, le temps de lui inculquer quelques-uns des principes sévères qui régissent la vie de ses pensionnaires, l'obéissance, la discipline, mais aussi une méthode universitaire, la méthode nominaliste de Duns Scott. Dans ce foyer conservateur, l'humanisme est pourchassé, alors que sont honorés et étudiés les pères de l'Église, en particulier saint Augustin.
En marge de ses études, Calvin a eu des rapports avec les humanistes.
Admis dans l'entourage de Budé, Calvin découvre Érasme via la librairie de Guillaume Kopp, qui est premier médecin du roi, familier de Guillaume Budé, correspondant d'Érasme. Et peut-être a-t-il alors ses premiers contacts avec les écrits de Lefèvre d'Étaples, de Luther, de Mélenchon.
Mon père considérait que la science des lois communément enrichit ceux qui la suivent. En 1529, Calvin acquiert la maîtrise Ezard, clôturant le cycle de ses études philosophiques. Quelle va être son orientation?
En 1529 ou 1528, je préférerais 1528, il y a hésitation sur la date. En effet, Calvin obtient la maîtrise S.R. et l'expérience Montaigu prend fin. Calvin quitte l'université de Paris pour celle d'Orléans, célèbre en effet pour sa faculté de droit. L'orientation du jeune étudiant change. Le droit succède à la théologie. Son père voulait, on s'en souvient, faire de lui un homme d'église. Pourquoi alors Calvin est-il dirigé par son père vers l'étude des lois? Pourquoi ce changement? La question en effet mérite d'être posée. C'est parce que son père s'était brouillé avec le chapitre de Noyon, et aussi parce que son père recherchait pour son fils une fonction, il faut le dire, plus lucrative.
À Orléans, où il fait le droit, Calvin étudie le grec avec Melchior Wolmar, humaniste allemand et luthérien. Il va suivre d'ailleurs ce dernier à Bourges. Quelle a été l'influence religieuse de Wolmar sur Calvin?
Eh bien, pour satisfaire un goût des lettres qu'il avait contracté déjà à Paris, Calvin se met à l'étude du grec auprès de Melchior Wolmar, qui est un homme, comment dire, ouvert, sinon même gagné aux idées de Luther. Et il va, en effet, en 1529, quitter Orléans pour Bourges, et il va là, à l'université, où enseigne l'italien André Alciat, à la demande de Marguerite d'Angoulême. Et André Alciat enseignait le droit romain. Calvin d'étudier alors les textes au moyen de la philologie et il obtiendra le grade de licencié ès loi.
À la mort de son père, Calvin, pourvu de bénéfices ecclésiastiques, ayant perçu son héritage, se fixe à Paris. Que va-t-il faire à Paris ?
Eh bien, son père meurt le 26 mai, sans doute excommunié par le chapitre, et alors Calvin entreprend à Paris des études littéraires, tout en poursuivant ses études de droit. Calvin suit au collège des lecteurs royaux, c'est l'embryon de ce qui va devenir le Collège de France. Calvin suit les cours de Pierre d'Annès, auprès de qui il perfectionna les connaissances de grec, les connaissances qu'il avait acquises chez Volmar. Il suit aussi les cours d'un hébraïsant, François Vatable. Pierre d'Annès et François Vatable avaient subi l'influence de Lefèvre d'Étaples. Et le 4 avril 1531, paraît le premier ouvrage de Calvin, son commentaire du De Clemencia de Sénèque. C'est là un travail d'exégèse, peut-être pas un travail fabuleux, mais qui annonce là le futur interprète biblique. La méthode de Calvin est une méthode éclectique. En effet, ne négligeant aucune des ressources alors à sa disposition, il aborde le texte sous les divers angles de la philologie, de la grammaire, de la logique et même de la rhétorique. Calvin, commentateur de Sénèque, se pose ici en humaniste, admirateur du philosophe latin, et Calvin se révèle déjà habile exégète.
Le 1er novembre 1533, Nicolas Cop, recteur de l'Université de Paris, prononce son célèbre discours de rentrée, dit discours évangélique. Ce discours cause un grand scandale. Calvin, soupçonné d'y avoir collaboré, prend la fuite sous un déguisement. Que va-t-il devenir après avoir quitté Paris ?
Profitant d'une absence du roi, le Parlement engage des poursuites contre le recteur de l'université et Cop doit s'enfuir à l'étranger. Et Calvin, qui se sentait également menacé, se réfugie à Angoulême, chez son ami Louis Dutillet, curé de Clé. Pourquoi Calvin éprouve-t-il le besoin de se mettre ainsi à l'abri ? C'est sans doute parce que Calvin a dû avoir effectivement, d'une manière ou d'une autre, part à la rédaction du discours de Cop, ce discours qui, s'inspirant d'Érasme et de Luther, abordait certains des thèmes chers à la Réforme, notamment celui de la justification par la foi. La fuite de Calvin à Angoulême pose un problème important, c'est celui de sa conversion, ou plus exactement, celui de son adhésion à la cause de la Réforme. En cherchant à échapper aux poursuites déclenchées par le discours inaugural de Cop, Calvin prouvait qu'il s'était déjà compromis avec les évangéliques parisiens. En novembre 1533, Calvin devait être pour le moins déjà partisan du réformisme que Lefèvre d'Étaples avait cherché à mettre en œuvre.
Étant parvenu à l'âge de 25 ans, et étant obligé à en faire les fonctions ou abandonner la cure, sa conscience ne lui permettant pas de célébrer la messe, il prit la résolution de tout abandonner. Quand peut-on situer la conversion de Calvin ?
Dans le passage de sa préface au commentaire sur le livre des psaumes, qui date de 1557, Calvin évoque la subite conversion. D'ailleurs, du reste, l'expression en latin est consciemment ambiguë. Elle désigne une conversion subite ou bien subie. Grâce à cette conversion, Dieu détourne Calvin, je le cite, des superstitions de la papauté. Dieu dompte et range à docilité son cœur. Au fond, Calvin est l'homme que Dieu a dompté. Aucune date n'est indiquée de cette conversion, de cette adhésion à la cause de la réforme. Du reste, Calvin est un homme fait de pudeur, une pudeur pétrie de timidité, d'abnégation, et c'est très difficile d'avoir chez lui des discours à la première personne. C'est très difficile d'avoir des confidences de Calvin. C'est le secret de l'intimité jamais reniée de cette vie toute de réserve. On peut penser toutefois, et c'est l'hypothèse la plus probable, que c'est à la fin de 1533 qu'il passa du réformisme fabrisien, j'entends par là de ce désir de réforme autour de Lefèvre d'Étaples, a une attitude franchement réformatrice. Car, au printemps 1534, Jean se rend dans sa ville natale, Noyon, pour y résigner tous les bénéfices ecclésiastiques dont il avait joui jusqu'alors, et pour mettre fin à sa situation de clerc.
Mais est-ce qu'il était prêtre, hein?
Non, Calvin n'était pas prêtre, c'était, pour le moment, c'est un homme de droit qui a goûté à la théologie.
Calvin parle de grâce irrésistible. Peut-on considérer que cette conversion a été subite, foudroyante?
Oui, en effet, c'est une conversion subite, quoique encore on puisse traduire, comme je l'ai indiqué, une conversion subie. Mais enfin, il semble tout de même que Dieu dompte le futur réformateur et que Dieu va donner aux qualités de Calvin l'exacte dimension par cette conversion. Toutefois, grâce irrésistible, certes, mais la grâce irrésistible n'est pas réservée à une conversion subite. Pour une conversion lente, elle est aussi le fruit de la grâce irrésistible.
Et de fait, laissant le pays de France, je m'en vais en Allemagne de propos délibérés, afin que là, je puisse vivre à Rocroix, en quelque lieu inconnu, comme j'avais toujours délibéré. Mais voici que, cependant que je demeurais à Bâle, étant là comme caché et connu de peu de gens, on brûla en France plusieurs fidèles et saints personnages. Que fit Calvin après sa conversion ?
Au retour de Noyon, gagné cette fois l'idéal évangélique, Calvin fait halte à Paris, puis il séjourne en divers lieux, à Orléans en particulier. Et c'est à Orléans, où il avait fait une partie de ses études de droit, que Jean met au point son premier ouvrage théologique, La Psychopanica, Le sommeil des âmes, un ouvrage dans lequel Calvin entend prouver que les âmes veillent et vivent après qu'elles sont sorties des corps. À peine Calvin a-t-il achevé ce traité qu'un événement retentissant l'obligea à quitter la France, et c'est l'affaire des placards. Durant la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des placards, en effet, des placards contre la messe, dus à Antoine Marcourt, qui est pasteur à Neuchâtel, des placards sont affichés à Paris et à Amboise, jusque dans les appartements royaux. Et François Ier, roi de France, ne peut pas souffrir cette offense. Encouragé par la Sorbonne, le Parlement et même quelques humanistes, le roi de France fait procéder à un certain nombre d'exécutions auxquelles vous faisiez allusion. Pour échapper au danger auquel ses convictions désormais l'exposent, Calvin prend le parti de fuir. Il prend le parti de se réfugier à Bâle, en janvier 1535, dans cette ville où Oswald Myconius poursuivait l'œuvre de réforme commencée par Jean Eucolampade. Et dans cette ville de Bâle, le jeune Français trouve un asile sûr, un havre de paix de premier ordre. Mais tenant à passer totalement inaperçu, il se fait appeler Martinus Lucanius. Il est donc là, à Bâle, sous un pseudonyme.
C'est à Bâle qu'il va commencer à rédiger l'institution chrétienne.
Oui, consacré désormais entièrement à la théologie, il achève, en moins d'une année, au prix d'un effort très intensif. Calvin est un homme de courage, c'est un homme de l'effort, c'est un homme qui a été habitué, peut-être au collège de Montaigu, à prodiguer de grands efforts de travail. Calvin rédige un livre qu'il avait certainement mis en chantier avant de quitter la France. C'est l'Institution de la religion chrétienne, publié en latin au mois de mars 1536. Ce livre, introduit par une épître apologétique au roi de France, ce livre se présente comme un manuel de théologie, un manuel composé de 6 chapitres, et ce manuel se propose d'exposer la foi chrétienne. Et dès sa publication, l'institution fait de son auteur vraiment le héros de la réforme protestante. Un héros qui ne cessera pas durant toute sa carrière de retravailler et d'augmenter son ouvrage. C'est extraordinaire de voir le travail de ce jeune théologien qui va sans cesse être remis sur le chantier. Et la dernière édition de l'Institution de la religion chrétienne, parue en 1559 dans sa traduction latine, mais en 1560 dans le texte français, cette dernière édition de l'Institution de la religion chrétienne est faite à partir toujours de l'édition première. Seulement, elle comptera alors 80 chapitres qui sont répartis en 4 livres qui portent successivement, d'abord premièrement, sur la théologie proprement dite, celle qui est relative au Dieu créateur, au Dieu souverain du monde. Le second ouvrage est consacré à la sotériologie relative au Christ rédempteur. Le troisième ouvrage à la doctrine du Saint-Esprit, et le quatrième ouvrage à la doctrine de l'Église.
Sans vouloir entrer dans une étude approfondie de cet ouvrage capital, étude auquel nous pourrons consacrer une prochaine émission, pourriez-vous, en quelques mots, nous dire en quoi la doctrine exposée sur ces différents sujets marquait une brisure, une césure avec la foi catholique?
Je pense que le premier tome et le second tome, et même le troisième tome consacré respectivement à la doctrine de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, sont en réalité dans des perspectives très classiques. Calvin est tout à fait l'héritier des pères de l'Église. Calvin est l'interprète des docteurs du Moyen-Âge. Et Calvin signe les conclusions des grands conciles écuméniques de l'Église ancienne. Donc, il y a là essentiellement des aspects extrêmement classiques. Je pense que les divergences se situent surtout au livre 4e, où Calvin expose l'anthropologie, c'est-à-dire la doctrine de l'homme, c'est-à-dire comment l'homme s'empare-t-il du salut qui est en Jésus-Christ. Et c'est là tout le problème, c'est là la brisure en effet vis-à-vis du catholicisme romain, c'est tout le problème du salut par la foi.
Cette émission a été préparée et réalisée par Louis Sanson et le pasteur Jean-Marc Doma, professeur à la faculté réformée d'Aix-en-Provence, avec la collaboration technique de Périclès.